Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Leury, dont Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Olivier Arnay. Nouvelle série donc consacrée aux nouvelles formes de conflictualité, à ce que sera la guerre demain. Nous parlerons de la montée en puissance de ces mercenaires qui, de la Libye au Haut-Karabakh, sont de plus en plus nombreux à participer au compte d'autres États à des guerres par procuration. On parlera également du cyberespace, de l'intelligence artificielle qui ont transformé en profondeur notre manière de faire la guerre. Et puis on essaiera de voir comment construire la paix. Certaines fois, le chemin suivi consiste à libérer les combattants, comme on l'a vu du côté de l'Afghanistan ou du Mali, où ce fut un passage obligé pour permettre la négociation. Mais pour commencer, penchons-nous sur notre pays. Regardons comment son armée peut, doit se préparer au conflit de demain. De la guérilla à la haute intensité, préparer nos armées, c'est notre sujet ce matin.
Nous construisons une armée puissante et moderne dans les domaines aériens, maritimes, une force de feu et une force stratégique. D'ici à 2035, nous bâtirons une armée de classe mondiale.
Mon premier budget sera soumis au Congrès le mois prochain. Il inclura une hausse historique dans les dépenses de la défense qui permettra de reconstruire l'armée des États-Unis. Je le répète encore une fois, nous avons dit à plusieurs reprises à nos partenaires américains et européens, aux pays membres de l'OTAN, que nous prendrions les mesures nécessaires pour éliminer les menaces qui se posent à cause du déploiement du système antimissile mondial des États-Unis. Nous en avons parlé lors des négociations et même en public. Personne ne voulait parler avec nous sur le fond. Personne ne nous écoutait. Maintenant, écoutez-nous.
Dans l'ordre, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine, tous annonçant des hausses de dépenses dans le secteur de la défense. En 2019, les dépenses militaires dans le monde ont explosé, atteignant 1917 milliards de dollars, selon le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié en avril dernier. Une progression de 3,6% par rapport à l'année précédente, soit la plus forte augmentation depuis 10 ans et un record jamais observé depuis la fin de la guerre froide. Dans ce contexte, comment se prépare la France? Quelle vision stratégique pour répondre aux nouveaux défis de la conflictualité? D'ailleurs, faut-il vraiment parler de nouveautés ou finalement assisterait-on à un retour d'une forme plus classique du conflit, moins asymétrique que ce que l'on a connu ces dernières années avec la lutte contre les groupes djihadistes? Il est de plus en plus question d'un retour en force de ce qu'on appelle la haute intensité. De quoi s'agit-il? Quels moyens mettre en place pour y répondre? Et puis enfin, comment penser la place de notre armée dans des ensembles plus larges tels que l'Union européenne ou l'OTAN? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Thierry Burkhard, qui est général, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre. Bonjour Thierry Burkhard.
Monsieur Delorme, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes là aussi parce que vous avez récemment publié une vision stratégique pour 2030 qui a été publiée en juin dernier. Et donc on va avoir l'occasion ensemble de développer un peu justement cette vision et de la mettre aussi à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve du terrain. Avec nous également, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Florent Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes historien des relations internationales et le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, évidemment auteur, je le cite souvent, de l'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, un excellent livre à avoir dans sa bibliothèque. Thierry Burkhard, général, on va peut-être commencer avec vous. Vous avez donné une interview récemment dans le Figaro dans lequel vous dites, je vous cite, « Les conflits se règlent maintenant par le rapport de force. Avec une armée de terre durcie, un modèle d'armée complet, un éventuel agresseur sera dissuadé de nous provoquer. » Vous pensez qu'aujourd'hui, on manque de moyens précisément pour répondre à d'éventuelles provocations et que par conséquent, il est urgent de réarmer comme le font d'ailleurs les autres pays du monde. On a entendu trois grandes voix de ce monde. Général.
Alors, je pense la première chose, c'est qu'il faut quand même regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. En fait, on ne peut pas réfléchir dans l'abstrait. Et vous avez cité quelques interviews qui montrent bien qu'effectivement, le monde aujourd'hui évolue. Il évolue assez vite. Et en particulier, dans le domaine qui m'intéresse, la conflictualité aujourd'hui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur cette évolution de la conflictualité? Vous en avez parlé. Il y a bien un retour du rapport de force, c'est-à-dire il y a un réarmement. Et en fait, il y a la volonté des pays qui se réarment d'employer la force. une forme de désinhibition dans l'emploi de la force. Et en fait, malheureusement, chaque semaine qui passe nous fournit des exemples. On peut remonter un peu. Vous avez vu la manière dont la Turquie, finalement, s'est fait un glacis sur sa frontière, à la frontière avec la Syrie, avec l'Irak. Alors, certes, un peu présenté comme une opération limitée. Il s'agissait seulement de conquérir une bande de 30 km de profondeur. Mais la Turquie, pour cette opération-là, a engagé quand même 80 000 hommes, des blindés, de l'artillerie. Vous pouvez voir aussi l'évolution du conflit en Libye. En Libye, où il y a quelques années, on assistait plutôt à des combats entre milices, certes, quand même déjà un peu armées. Aujourd'hui, en fait, c'est, même si heureusement, Dieu merci, un cessez-le-feu aujourd'hui est en cours en Libye, mais on a assisté à une vraie guerre avec des blindés, de l'aviation, des drones, des défenses solaires, de la guerre électronique, une guerre informationnelle extrêmement puissante, un blocus maritime. Voilà. Et on a le conflit au Karabakh qui montre aussi comment finalement, deux pays, on arrive à remettre une espèce de trêve, une espèce de glaciation qui était établie en engageant là aussi des moyens lourds.
Donc il y a urgence à réarmer. Est-ce que la manière dont on le fait aujourd'hui et les moyens surtout qu'on met sur la table, on a là entendu Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, s'agissant de la France, le budget de la défense est en augmentation, vous en êtes satisfait ?
Oui, ça c'est, vous avez raison de le souligner. En fait, la France est consciente et les autorités politiques françaises sont conscientes de cette évolution du monde. Pour moi, la meilleure preuve, ce qui est sur la table, c'est la loi de programmation militaire. Une loi de programmation militaire ambitieuse qu'a voulu le président de la République, qui a clairement annoncé que l'armée française devait être une armée de référence en Europe. Et donc ça se traduit par un soutien avec la ministre des Armées, le chef d'état-major des armées, qui ont construit une loi de programmation qui nous permet à la fois de réparer l'armée française, réparer l'armée de terre, mais aussi de la moderniser.
On va voir justement ce qu'il y a derrière ce travail de modernisation. Thomas Gomard, le général Burka, nous dit oui, il faut réarmer parce qu'il y a des provocations et c'est vrai qu'on le constate, malheureusement, il a cité la Turquie, il a raison, c'est l'exemple type, les provocations ne cessent de se multiplier. On a vu cet été comment il a fallu, en tout cas comment le chef de l'État français a décidé d'envoyer des moyens pour protéger la Grèce des velléités gazières de la Turquie. Sauf que si on regarde les choses, Thomas Gomard, on se rend compte que peut-être que ça ne suffit pas précisément ce que l'on fait sur le plan des moyens militaires, parce qu'en réalité, ça ne règle pas du tout le problème avec la Turquie. On l'a encore vu ce week-end. Les tensions ne cessent de s'aggraver. On a un président turc qui invite notre président à s'intéresser à sa santé mentale, qui agite le monde arabo-musulman pour pousser au boycott. Par ailleurs, sur les velléités gazières, ça ne change rien parce qu'on renvoie quand même des navires. Bref, la question qui se pose, Thomas Gomard, c'est est-ce que finalement on ne réarme pas, comme le demande le général Burka, parce qu'on n'est plus en capacité de parler à nos ennemis ?
Bon, c'est effectivement une manière de rentrer dans le sujet, c'est-à-dire qu'en fait vous suggérez l'idée que c'est parce que la diplomatie ne fonctionne plus qu'on réarme.
Or, je compense le déficit diplomatique.
Or, je pense que le problème est d'essayer de comprendre la combinaison entre diplomatie et outils militaires. Pour le dire très rapidement, on est dans une situation où nous avons un rendement diplomatique décroissant et un coût de notre sécurité croissant. Et que cet effet ciseau intervient dans un moment très critique parce qu'il intervient effectivement quand d'autres, et que nous considérions comme des puissances secondaires, on parlait de la Turquie précédemment, ont réarmé de manière très continue depuis plusieurs années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on est dans des logiques de long terme. L'Europe occidentale, pour faire simple, se démilitarise depuis le début des années 70. À ce moment-là, on est en guerre froide, la dépense militaire est de l'ordre autour de 4% du PIB. Aujourd'hui, on est en moyenne à 1,5% du PIB. Elle a continué à se démilitariser quand les autres, après le 11 septembre 2001, donc il y a presque 20 ans, ont augmenté leur effort de défense, que ce soit, vous avez mentionné la Chine, la Russie, les États-Unis, on pourrait évidemment parler aussi de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, etc. Donc en fait, nous, Européens occidentaux, à contre-temps du mouvement général. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le général Burka faisait allusion à la loi de programmation militaire qui porte sur 6 ans, 2019-2025. Or, une politique d'armement, elle se pense sur une génération, deux générations. Un système d'armes, ça se prépare, ça se met en œuvre sur une, deux générations. Tous les militaires appartiennent à une génération selon les combats ou les opérations auxquelles ils ont participé. Je pense que pour le général Burkhard, c'est typiquement la génération des Balkans, par exemple. Mmh. Aujourd'hui arrive à maturité la génération du Sahel. Donc ce sont des processus de temps très longs, en réalité. Et je pense qu'il ne faut pas voir cette question uniquement par rapport à un incident diplomatique, comme vous le suggériez avec Erdogan. Non pas pour dire que la solution vient toujours des militaires, mais les militaires sont là pour offrir des options aux politiques dans un cadre diplomatique plus large. Dernier point, ce qui est en train de changer en réalité, c'est que nous sommes en train de comprendre que nous avons projeté de la force, fondamentalement, nous, européens, occidentaux, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, et que cette projection de force, en fait, ne nous protège plus, comme elle l'a fait par le passé, parce que nous sommes attaqués sur notre propre sol, via les attaques terroristes, et surtout, vous avez la combinaison d'attaques terroristes et d'un regain de compétition de puissance. Mmh. Autrement dit, je pense qu'il faut aussi voir les choses tout simplement, revenir aux fondamentaux, c'est qu'un appareil militaire, ça sert surtout à se défendre.
Thierry Burkhard, je vais peut-être vous faire réagir à cette idée-là, c'est-à-dire cette idée qu'on serait en train, c'est une hypothèse que je mets sur la table, en train de chercher au fond à compenser un déficit diplomatique par du réarmement, et puis il va falloir que vous nous présentiez un petit peu votre vision stratégique, parce que vous insistez beaucoup, vous, sur l'idée qu'on va de plus en plus vers des conflits qu'on appelle de haute intensité. Alors, j'ai regardé un peu précisément les choses, je suis allé dans le glossaire interarmé terminologie opérationnelle du ministère de la Défense, et j'ai vu qu'on appelait la haute intensité une opération, je cite, où l'ensemble des fonctions opérationnelles est activé pour s'opposer à une violence caractérisée de l'adversaire. Il va falloir que vous nous éclairiez un petit peu là-dessus, parce que j'entends tous les mots, mais tous pourraient faire l'objet d'interprétations. Qu'est-ce qu'on appelle une opération ? Qu'est-ce qu'on appelle une violence caractérisée ? Qu'est-ce qu'on appelle un adversaire ? Bref, je vous laisse réagir sur le premier plan du déficit diplomatique, et puis ensuite on ira vers la haute intensité.
Alors, en ce qui concerne le déficit diplomatique, comme l'a dit M. Gomard, en fait, il faut être capable de voir les choses dans la durée. Et en fait, bien voir qu'en termes de conflictualité, de guerre, en fait, on est toujours deux. En tout cas, on n'est pas tout seul. Donc, on n'est pas les seuls à fixer le curseur et on doit avoir une vraie capacité à s'adapter, finalement, à ce que votre adversaire cherche à vous imposer. C'est ça, la réalité. Et donc, le déficit diplomatique, ça ne veut pas dire que nous, on a envie de moins en faire, peut-être. Mais en tout cas, en face, c'est plus quelque chose qui offre du répondant. Et pour ça, c'est assez intéressant de voir, d'ailleurs, comment la conflictualité a évolué. Et je vais pas remonter, je vais vous dire ce que moi j'ai vécu dans mon expérience de militaire dans l'armée française depuis les années 85, où en fait, en école, j'ai été préparé à affronter le pacte de Varsovie. On se préparait à affronter le pacte de Varsovie, qui était un conflit de haute intensité un peu classique, le conflit de haute intensité par excellence. Finalement, quand je suis arrivé, ça a été la guerre du Golfe, qui d'un point de vue doctrine n'était pas totalement hors champ. Puisqu'en fait, globalement, outre le fait que c'était pas dans la trouée de Fulda, mais que c'était au Moyen-Orient, en fait, finalement, on a appliqué la doctrine pour laquelle on avait été préparé face à un ennemi blindé mécanisé, qui d'ailleurs appliquait exactement la doctrine soviétique. Les schémas de pensée soviétique, on les a retrouvés sur le terrain en Irak. Derrière, M. Gomard l'a dit, c'est devenu soldat de la paix. Parce qu'en fait, ça a été le gros marquant, ça a été les opérations dans les Balkans. Ça veut pas dire que c'était une guerre qui était moins simple. On a perdu beaucoup d'hommes dans les Balkans. En face de nous, on avait néanmoins un ennemi qui cherchait plus à nous empêcher de remplir notre mission qu'à nous tuer. D'ailleurs, tous les jours, des officialisations discutaient avec les belligérants des deux camps. Je dis bien, ça ne veut pas dire que la mission n'était pas dure, mais néanmoins, il y avait une volonté seulement de nous empêcher de remplir la mission, pas de nous tuer. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement structurant. Ce n'était pas une mission qui était simple, c'était une mission qui était psychologiquement compliquée. Derrière, finalement, on a retrouvé la guerre qui nous a, non pas surpris, mais c'est le début des années 2000, finalement, notre engagement en Afghanistan, et pour l'armée française avec Ouzbin, où finalement, on a redécouvert face à nous un ennemi qui cherchait à vous tuer. Voilà. Donc, il a fallu s'adapter. Il a fallu l'armée de terre, et l'armée française a dû se réadapter à cette forme de guerre contre un terrorisme militarisé extrêmement violent, là aussi, avec des combats très très durs. Pour autant, il nous a fallu du temps, de la douleur et du sang. Mais j'aurais tendance à dire, on a eu le temps de le faire, parce qu'en fait, il n'y avait pas de menace vitale Bien évidemment que le terrorisme menace la France aussi, comme ses concitoyens, mais il n'y avait pas de menace vitale. Donc on a eu du temps. Aujourd'hui...
Et là, vous dites, on va vers la haute intensité.
Aujourd'hui, effectivement, ce que je constate, c'est que on a obtenu... L'armée de terre est devenue très efficace, l'armée française. Les armées occidentales ont obtenu une certaine efficacité opérationnelle, que ce soit en Afghanistan, que ce soit aujourd'hui au Mali. D'un point de vue militaire, les effets militaires produits sont, si on les analyse, d'une relativement bonne efficacité, d'une grande efficacité. Mais aujourd'hui, on voit que les conflits qui sont en train de se développer autour de nous, en fait, on sent en train de changer d'échelle. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est capable de faire à petite échelle, de produire une bonne efficacité sur le terrain, on soit prêt directement aujourd'hui. En tout cas, ça mérite qu'on réoriente un peu la manière dont on se prépare et qu'on analyse mieux les menaces qui sont autour de nous dans les conflits qu'on voit se développer.
Qu'on soit très clair, Général, quand vous dites on va changer d'échelle, on va passer à une échelle plus grande, est-ce que vous voulez dire on va vers des conflits interétatiques ?
C'est une des possibilités. En tout cas, on voit qu'il y a des pays qui s'engagent, soit directement, soit qui engagent des proxys, c'est-à-dire des troupes supplétives, soit appuient leurs alliés de manière très déterminée et qui ressemblent quasiment à des conflits étatiques, dans le sens où, quand je parle du changement d'échelle, c'est bien évidemment les masses d'hommes qui sont mises en relation, qui sont finalement injectées dans les théâtres. C'est le type d'unité, c'est les matériels. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on est en guerre contre le terrorisme militarisé, qui n'est pas un combat facile non plus. Nos soldats, il y a des pertes, c'est un combat qui est très dur, qui demande beaucoup de rusticité, beaucoup d'engagement, beaucoup de coordination interarmée. Néanmoins, on se base sur le segment avant. C'est-à-dire que il n'y a pas, par exemple, de question de supériorité aérienne. Quand un soldat français est blessé, je ne pose pas la question de savoir si on va réussir à l'évacuer. On va réussir à l'évacuer, ou alors c'est les conditions météo. Mais il n'y a pas un espace aérien qui est contesté. Dans les conflits qui sont en train de se développer, on voit que tous les milieux sont contestés. Et là-dessus, se greffe quelque chose, parce que justement, il y a des États, en tout cas des groupes organisés, c'est que tout ce qui est lutte informationnelle, champ immatériel, prend une part démesurée, une part extrêmement importante, et cet impact-là sur nos sociétés est très très fort.
Donc ça veut dire qu'on va progressivement quitter ce qu'on a appelé pendant des années les conflits asymétriques. Thomas Gomard, on a répété pendant des années, les années 2010, ça a été les années de la remontée en puissance des groupes djihadistes, la décennie de la création de Daesh, d'une lutte internationale. C'est pas si souvent que la communauté internationale s'unit pour lutter contre Daesh, pour lutter ensemble, ça a été le cas contre Daesh. Nous voilà que maintenant, le général Burka nous dit, attention, on retourne là vers des conflits à haute intensité, donc plus symétriques, potentiellement des conflits interétatiques. Comment est-ce qu'on peut, aussi vite, passer de l'un à l'autre ?
Parce qu'on oublie très vite notre propre histoire. Trois chiffres. Vous avez eu 92 000 morts pendant les guerres d'Indochine, dont 20 000 soldats métropolitains, 11 000 légionnaires et des troupes coloniales. Vous avez eu 24 000 morts militaires pendant la guerre d'Algérie. Dans le monument aux morts aux OPEX, qui est Parc André Citroën de l'autre côté de la Seine, qui a été inauguré en novembre dernier, vous avez moins de 600 noms depuis 1963. C'est-à-dire que nous avons pris l'habitude, au fond, d'assurer notre sécurité extérieure avec un très faible coût humain. Et ça, c'est effectivement une prouesse, en fait, historique. C'est le fruit de toute une construction, et aussi de toute une construction consistant à vouloir réguler la violence par le droit, par la norme et par l'engagement extérieur. La question, en fait, que vous posez, c'est la question de l'unité de compte. Est-ce que cette unité de compte, en gros 10 morts par an, va rester la même ? Et c'est une question, évidemment, assez fondamentale, parce que nos élites politiques, notre opinion, a pris cette habitude depuis 63, au fond. Nous voyons en paix dans un moment où d'autres ne se voient pas en paix. Alors ensuite, sur comment on a pu en arriver là, je ne pense pas qu'il faille, si vous voulez, avoir un effet de substitution, c'est-à-dire de dire c'est plus la symétrie, c'est le retour du fort au fort ou de l'interétatique. Ça peut tout à fait coïncider, ça peut tout à fait se mélanger. Et la Turquie en est un exemple emblématique. La Turquie, je le rappelle, est membre de l'OTAN, donc en principe notre allié. La Turquie se manifeste comme une puissance régionale, veut prendre l'ascendant en Méditerranée orientale, veut prendre l'ascendant en Libye, veut prendre l'ascendant dans le nord de la Syrie, etc. Dans le même temps, la Turquie véhicule l'idéologie frériste et a un impact très fort sur un certain nombre de musulmans en Europe, notamment en France. Donc tout ça doit en fait se relier, s'articuler et comprendre que il ne faut pas rentrer, à mon avis, dans le sujet uniquement sous l'angle purement militaire. Cette dimension militaire est essentielle parce qu'elle revêt une organisation propre, un rythme propre, comme nous le disions précédemment. Mais cette dimension militaire n'est qu'aujourd'hui qu'un des aspects, au fond, de la conflictualité.
Oui, en fait, en réalité, les choses se mélangent, elles se superposent au fur et à mesure. Est-ce qu'on est en capacité de faire les deux, Thierry Burqa?
Oui, je voulais...
Quand je dis « on », c'est l'armée française, en l'occurrence l'armée de terre, dont vous êtes le chef d'état-major.
En fait, vous avez raison, et je voulais intervenir là-dessus. En fait, on ne peut pas se préparer à quitter l'asymétrie. En fait, l'asymétrie, il y a des adversaires qui chercheront encore à nous combattre de manière asymétrique. Donc, bien évidemment, ce qu'on a appris en termes de combat asymétrique, c'est quelque chose qu'on doit conserver. Mais le sujet, c'est aujourd'hui, alors que, un peu par situation le permettant, on s'est focalisé sur le combat asymétrique. Aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus se permettre de se préparer là-dessus. Et au contraire, il faut se préparer sur quelque chose qui est le plus dimensionnant, c'est-à-dire un retour de conflits de haute intensité. Comme je l'ai dit, c'est une question de changement d'échelle dans les volumes, dans le type d'unité, mais dans les menaces auxquelles on est confronté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, ça veut dire concrètement, pour l'armée de terre, on doit changer d'échelle dans l'entraînement qu'on conduit, avec une vraie difficulté. C'est-à-dire que notre entraînement doit nous permettre de couvrir un champ qui finalement s'élargit encore, l'asymétrique, la haute intensité. Et en fait, tout ce que fait aujourd'hui une armée de terre et des armées, c'est-à-dire d'être capable d'appuyer les populations, soit pour assurer leur sécurisation sur le territoire national, soit leur porter secours. Et donc ça donne une palette extrêmement large, et en termes d'entraînement, c'est quelque chose qui est très dimensionnant.
Alors, on va mettre justement ce que vous dites à l'épreuve de la réalité. Quand on regarde les choses, aujourd'hui, la plus importante opération extérieure de l'armée française, c'est celle qui est menée du côté du Sahel, c'est l'opération Barkhane.
Pour ce qui est de l'opération Barkhane, elle ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terrorisme islamiste dans la région et où la souveraineté pleine et entière des États du Sahel sera restaurée. Pas avant, parce que décider de s'arrêter avant que justement l'ensemble de ces groupements et de ces terroristes soient éradiqués, c'est créer les conditions d'une reprise dans quelques années.
Notre nord est toujours occupé. On tue tout le temps les Maliens. Ce n'est même plus facile de voyager pour aller au nord. Le Mali même est divisé en quelque sorte. Alors qu'on a fait appel à la France pour stopper ce phénomène-là.
On est contre Barkhane parce qu'ils ne sont pas efficaces comme nous le souhaitons. Ils ont tous les matériels sophistiqués pour savoir et même le déplacement de ces terroristes-là. Car nous, le Mali, nous n'en avons pas.
Voilà, alors on entendait d'abord évidemment la voix du président Macron et puis ensuite la voix de Maliennes, de Maliens qui critiquent cette opération. Je le rappelle, 4500, 5000 soldats, ça dépend un peu des moments, mais les effectifs c'est à peu près ça sur l'opération Barkhane, présente depuis 2014, même s'il y avait déjà quelque chose avant l'opération Serval, peut-être qu'on y reviendra, et puis même déjà avant Serval, peut-être qu'on y reviendra aussi. Il se trouve que, en tout cas depuis 2014, Thierry Burqa, non seulement les groupes armés sont toujours là, mais qu'en réalité, ils se sont étendus géographiquement. Par exemple, si on prend 2014, au Burkina Faso, il n'y avait pas d'attaque terroriste. Aujourd'hui, il y en a. Comment se fait-il que les choses ne se passent pas comme on aurait voulu l'avoir, comme on aurait pu l'espérer? L'ancien chef de l'opération Serval que j'évoquais tout à l'heure, le général Barrera, faisait son adieu aux armes il y a quelques jours et il a dit la chose suivante: même si nous continuons à avoir des victoires militaires en prenant des combattants, la situation n'est pas bonne, disait-il. Comment se fait-il que la situation n'est pas bonne? Qu'est-ce qui est en échec avec Barkhane?
Alors, c'est une question complexe, en tout cas une réponse qui n'est pas simple à fixer. La première chose, c'est... on oublie souvent de se poser la question, finalement, si on n'était pas là, quelle serait la situation? Ce qui tempère un peu le fait de dire, finalement, on est en échec. Je pense que ça, il faut quand même être très conscient de la difficulté.
Allons au bout de l'hypothèse. Que se serait-il passé si l'armée française n'était pas intervenue?
Je pense que si l'armée française n'était pas intervenue, les groupes armés terroristes qui étaient extrêmement en développement extrêmement puissant au nord Mali, aurait descendu vers le sud, ce serait probablement emparé de Bamako, et finalement c'est tout un état, toute une structure étatique qui aurait basculé et qui serait devenue une zone grise du terrorisme.
Vous savez que ce que disent les spécialistes de la région, c'est qu'en réalité, la crise de l'État malien était déjà là, et qu'en réalité, ce dont avaient besoin les autorités de Bamako, c'est précisément d'aider à soutenir cet État et à le co-construire. Ils vont même plus loin. Ils expliquent même qu'en réalité, tout cela est un récit qu'on nous aurait vendu, je mets des guillemets, mais en tout cas, c'est comme ça que sont présentées les choses, et qu'en réalité, aucun groupe terroriste n'aurait été en capacité de faire tomber le régime actuel, et que quand bien même, de toute façon, des chutes de pouvoir au Mali, on en a régulièrement, on vient d'en avoir un exemple là il y a quelques semaines.
Oui, alors j'allais dire, vous aviez raison sur la première partie, me semble-t-il, de votre assertion, beaucoup moins sur la deuxième partie. Ça montre surtout qu'en fait, il n'y a pas, et les militaires sont les premiers à en être conscients, il n'y a pas de réponse uniquement sécuritaire à une crise et à la lutte contre le terrorisme, bien évidemment. Et donc, finalement, ce que fait Barkhane n'est pas tout seul, il y a aussi la MINUSMA, hein, la force des Nations Unies, il y a l'Union Européenne qui est engagée dans une force de préparation des armées maliennes, il y a les forces du G5, mais ce que font ces forces militaires...
Donc beaucoup disent que c'est une coquille vide, le G5.
Non, on ne peut pas dire que c'est une coquille vide, que le
G5... L'opération est très, très limitée entre...
Oui, mais là aussi, en fait, si on veut dire que la force du G5 est moins efficace que l'armée de terre française, j'aurais tendance à dire assez logiquement oui. Pour autant, ces gens-là qui ont une vraie présence sur le terrain, qui ont beaucoup progressé et qui se parlent entre eux, parce que là aussi, on ne peut pas gérer le terrorisme avec des frontières étanches. Donc ça, il y a vraiment un progrès très très net qui est fait là-dessus. Maintenant, ça veut bien dire que ce qui est fait d'un point de vue sécuritaire ne suffit pas. Mais les militaires en sont très conscients, et je pense que tout le monde en est conscient. Et donc c'est vraiment la nécessité de réussir à articuler tout ça entre, bien évidemment, créer les conditions sécuritaires. Mais ça, on ne peut pas tenir les conditions sécuritaires indéfiniment. Il y a la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est bien évidemment une partie de la solution politique qui permet à des gens, finalement, de se dire « Non, la Kalachnikov, je ne vais pas aller la déterrer à côté du puits. Mon avenir existe dans ce pays-là. » Et donc, la troisième condition, c'est le développement. Parce que ces gens-là, quand finalement vous touchez 50 euros ou 50 dollars pour poser un IED et que vous ne gagnez rien du tout, c'est toujours mieux. Donc il faut qu'on apporte le développement, il faut que le développement soit une partie de la solution.
Ça veut donc bien dire, Thomas Gomard, qu'on n'a pas donné une réponse suffisamment complète. Oui, la sécurité, mais quid de la gouvernance, quid du développement, voilà deux piliers qu'il manque et qui peut-être expliquent cet échec. De l'action française, c'est de ça dont on parle.
Ouais, moi, là-dessus, je serais plus nuancé, parce que, si vous voulez, j'entends votre argument, je l'entends aussi de la part de mes amis marocains, par exemple, en disant cette intervention, au fond, est vaine ou produit plus d'instabilité qu'autre chose. Moi, c'est l'étendard noir qu'il flotterait sur Bamako, je vois très bien ce que ça peut donner. Enfin, on a quand même des exemples de ce qui s'est passé à Raqqa ou en Syrie et en Irak pour se rendre compte du caractère complètement destructeur de ce qu'aurait pu être une chute de Bamako. Donc, je pense qu'il faut quand même repartir de là et voir que...
Et à ceci près, pardon Thomas Gomard, une des grandes différences, c'est qu'en réalité, les cadres de Daesh, de l'État islamique, qui ont semé le chaos qu'ils ont semé, ils l'ont fait aussi en s'appuyant sur un système politique qui était préétabli, que par ailleurs certains étaient déjà des cadres en réalité du pouvoir, alors que là, c'est des groupes qui sont marginalisés depuis des décennies.
Non, mais ça, bien sûr, et là où je vous rejoindrai, c'est qu'effectivement, toute la problématique Touareg, etc., est d'une complexité beaucoup plus, enfin, très, 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 très importante. Là, je vous rejoindrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'une intervention militaire, encore une fois, ce à quoi nous ne savons plus penser comme ça, c'est qu'on en prend pour 20 ans minimum. Voilà. Et donc là, en fait, la question, c'est que je pense que nous sommes probablement, c'est ça qui est derrière votre question, nous sommes probablement à la fin du cycle des interventions militaires occidentales. Donc voilà, 2013 Serval, vous faites plus 20, voyez où ça peut nous conduire. La question, c'est par rapport aux objectifs extrêmement ambitieux affichés par le président de la République quand il parle de souveraineté pleine et entière des pays et d'absence de terroristes, ça semble extrêmement ambitieux. Il y a probablement des étapes intermédiaires possibles, c'est-à-dire d'accepter au fond une zone plus ou moins contrôlée, plutôt plus que moins. Et au fond, d'essayer de maintenir des structures étatiques quand elles existent, ou de former. Parce qu'il n'y a pas d'État sans force armée, en fait.
Ouais.
Bon. Et donc, je pense que ce soit la MINUSMA ou que ce soit Barkhane, l'élément extrêmement important, c'est la formation des forces armées. C'est-à-dire que c'est aussi le moment, et je pense que là, il y a un changement de pied diplomatique très important de la part de la France, c'est que la France est sortie d'une sorte de face-à-face militaire avec les pays africains. Elle est en train d'essayer d'amener les Européens dans la zone, de dire aux pays africains, c'est à vous de construire vos forces armées, et ça se fait pas en 7 ans. pour dire les choses, ça se fait avec des revers, ça se fait avec, avec des échecs, mais la tendance, à mon avis, est là. Et ensuite, le général l'a rappelé, c'est pas pour, pour faire un appui-feu, mais le 3D, c'est-à-dire défense, diplomatie, développement, il est au cœur de l'action de Barkhane depuis le départ. Et c'est intégré depuis le départ, le rôle de l'AFD. Seulement, qui veut investir?
Sauf que le développement, on n'en parle pas.
C'est-à-dire que le développement, c'est pareil, ça se fait pas sur un claquement de doigts, mais qu'en même temps, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas un minimum de cadre de sécurité. Donc, faut aussi accepter, en fait, une image qui ne soit pas parfaite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le domaine du blanc et du noir, on est dans un domaine très graduel et où, effectivement, les choses évoluent d'un mois sur l'autre.
Ben justement, apportons de la graduation, et dans ce cas en particulier du Mali, général Burkhard, c'est que quand on refait un peu le film, qu'on revient un peu en arrière, il y a eu Barkhane, il y avait avant l'opération Serval, mais il y avait déjà avant une intervention militaire française. C'est-à-dire qu'à partir de 2009, on a commencé à envoyer effectivement des moyens dans la région pour lutter justement contre ces groupes armés. C'était plutôt, là, on était plutôt dans l'approche un peu plus légère. Il y avait des forces spéciales chargées d'éviter que nos ressortissants soient pris en otage, chargées éventuellement de temps à autre de s'attaquer à des groupes et à neutraliser, comme on dit, un certain nombre de leurs cadres, mais on n'avait pas une opération massive. Est-ce que finalement, c'est pas à ça qu'il faudrait revenir? Est-ce qu'on a eu vraiment raison de s'engager dans ce type d'opération massive? Ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement rester dans la dimension plus légère, peut-être plus efficace?
Alors, c'est toujours difficile de réécrire l'histoire.
Bien sûr, bien sûr.
Bien évidemment, je pense que l'intervention militaire, quand elle est décidée, en fait, c'est que finalement, on est arrivé un peu au bout du système qui avait permis de maintenir la situation sécuritaire sous contrôle, avec, vous l'avez dit, des détachements de forces spéciales, mais en fait, ces détachements de forces spéciales, en fait, ils participaient, ils contribuaient à quelque chose qui était déjà plus visible et qui est l'action militaire, elle est toujours un peu globale. Et il y a une première partie qui est tout ce qui est partenariat militaire opérationnel avec des actions de coopération pour former les cadres de ces pays-là, soit sur place, soit dans nos écoles, mais aussi préparer au combat plus directement avec, comme je le dis, le partenariat militaire opérationnel. Et les forces spéciales contribuaient à ça, avec une capacité de réaction qui permettait de faire face à des mauvais coups. Mais en 2013, cette situation-là, en fait, on en perd le contrôle, globalement, parce que c'est devenu il y a une dynamique qui devient supérieure. Et comme vous l'avez expliqué, avec des groupes armés terroristes, finalement, où il y a une espèce de coagulation, avec des Touaregs, mais aussi des groupes terroristes et Al-Qaïda, qui développe son emprise dans cette zone-là.
Thomas Gomard, vous vouliez réagir, je vous ai vu.
Oui, parce que je ne prends pas votre terme d'intervention massive. Je reviens à mon idée, c'est-à-dire que 5000 hommes, ça nous semble massif aujourd'hui.
Ça en fait la première opération extérieure,
certes,
militaire
mais
française.
Ça nous semble massif en proportion de ce que sont devenues nos armées. C'est aussi ça qu'il faut voir sur la durée, si vous voulez. Projeter 5000 hommes, je me souviens, quand je commençais dans le métier, on parlait des missions de Petersberg, par exemple. C'était ce que l'Union européenne voulait faire à la fin des années 90. Elle parlait de pouvoir déployer très facilement 60 000 hommes. Bon. On n'est plus capable aujourd'hui en Europe de faire ça. Donc le terme massif est assez trompeur.
On n'est plus capable aussi parce qu'on a choisi de ne plus le faire.
Absolument, mais ce sont des choix politiques, budgétaires, d'organisation. Mais si vous voulez, le terme massif est assez trompeur. En revanche, ce qui n'est pas trompeur, c'est qu'il y a un véritable phénomène d'usure avec Barkhane, de nos armées. Et aussi, ça montre, même si on progresse, la difficulté qu'ont les Français pour expliquer à leurs alliés européens que ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne est en fait leur étranger proche, pour prendre un terme que les autorités russes affectionnent pour parler de leur glacis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en désintéresser. On ne peut pas s'en désintéresser compte tenu...
Pourquoi ?
Parce que vous avez toute une économie qui de trafic qui passe par là. Vous avez tout un enjeu migratoire qui est aussi lié à cette zone. Et vous avez surtout un enjeu de stabilité de ces États. C'est-à-dire que la perspective que ces États tombent sur eux-mêmes, vous faisiez allusion au coup d'État au Mali, qui est effectivement une très mauvaise nouvelle pour Barkhane. C'est-à-dire que d'avoir investi sur la gouvernance politique et de se retrouver pris par surprise, si j'ose dire, par un coup d'État, c'est effectivement un échec. Mais imaginons au fond ces États qui implosent alors que nous avons à la fois nous y avons des intérêts et puis surtout nous avons aussi un phénomène de diaspora extrêmement importante qu'il faut avoir aussi à l'esprit quand on parle de cette zone. Donc on peut pas, ce que je sais dire, c'est qu'on ne peut pas s'en détourner de la même manière qu'on ne peut pas
Le phénomène de diaspora, qu'est-ce que vous sous-entendez? Que potentiellement on aurait des combattants qui viendraient sur notre territoire, parce que c'est une chose qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire l'idée que il faut aller les neutraliser au Sahel parce que sinon ils risquent de venir en territoire européen, en territoire français, et nous attaquer sur notre propre territoire.
Non, en l'espèce, quand je parlais de diaspora, je faisais allusion, si vous voulez, au discours du président Hollande quand il est allé consacrer d'une certaine manière l'opération. J'ai plus la date précise en tête, de 2013, et qu'il a rappelé, d'accord, au fond, les liens extrêmement étroits, d'accord, qui existaient entre un pays comme le Mali et la France. D'accord. Je faisais allusion tout à l'heure au rôle des troupes coloniales dans notre histoire militaire. C'est à ça, si vous voulez, que je fais allusion. Et ça joue. C'est-à-dire que ce sont des références qui jouent. Je ne me passe pas du tout sur le plan opérationnel que vous évoquez.
Oui, ça joue, sauf que ça joue jusqu'à ce que ça ne joue plus. C'est-à-dire que vous avez parfaitement aussi en tête les images de l'accueil qui a été fait aux militaires français lorsqu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, la situation est bien différente. C'est-à-dire qu'il y a un rejet très fort et qui, là aussi, il faut peut-être interroger Thierry Burka. Pourquoi aujourd'hui, bonne part, c'est difficile d'avoir des sondages, mais on voit bien que l'opinion malienne rejette fortement la présence militaire française aujourd'hui.
Oui, alors l'opinion publique malienne rejette l'armée française ou l'opération Barkhane. En fait, l'opinion malienne, elle est comme toutes les opinions du monde. Elle cherche des boucs émissaires et que l'armée française est un bouc émissaire toujours assez pratique. L'armée malienne, la population malienne, elle sait quand même ce que fait l'armée française. Alors elle peut être surprise de la soi-disant inefficacité de l'opération Barkhane, ce que je conteste, comme je l'ai dit.
Quand il y a des territoires qui n'étaient pas touchés par les groupes armés et qui le sont aujourd'hui, pour ces personnes-là en l'occurrence, il y a clairement une évolution et qu'ils corrèlent, à la présence française.
C'est vrai, mais je pense qu'ils peuvent le corréler à la présence française. Je pense qu'il faut surtout le corréler à l'absence d'avancée dans le domaine de la gouvernance et du développement, sur lesquels Barkhane n'a pas vraiment les leviers. C'est bien une action, comme disait M. Gomard, la règle des 3D, défense, développement, diplomatie. Diplomatie à entendre dans ce cas-là en termes de gouvernance, de forcer l'État malien finalement à se repositionner et à trouver des options politiques. C'est aussi pour ça que le terrorisme, ou en tout cas l'insécurité, se développe dans certaines parties du territoire malien. Mais pour faire écho, effectivement, 5000 hommes, qui est une opération importante, mais néanmoins, je rappelle qu'on agit, Barkhane avec 5000 hommes agit sur en gros la moitié de l'Europe. Donc en fait, ça fait pas une présence. En fait, on n'a jamais conduit. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'opération où finalement la présence est aussi faible. Donc c'est ce qui donne une idée, quand je vous disais qu'il y avait finalement une vraie efficacité opérationnelle, un peu de l'exploit qui est réalisé tous les jours.
Je voudrais qu'on revienne dans un instant à la question européenne qu'a évoquée Thomas Gomard, parce que c'est vrai qu'il faut aussi ouvrir le champ et se demander si il n'a pas aussi besoin demain de construire une Europe de la défense et regarder le rôle précisément de la France dans tout ça. Mais un tout dernier mot sur Barkhane, après je vous embête plus Thierry Burka. On a appris, et on s'en est réjoui, la libération de la dernière otage française, Sophie Petronin, sauf qu'on a appris aussi qu'elle avait été libérée en échange d'une centaine de djihadistes, un petit peu plus, 107 si je reprends les chiffres avancés par Libération. Comment est-ce qu'on a accueilli dans les rangs des militaires de Barkhane cette annonce?
Alors, avant de vous dire ce que peuvent penser les militaires de Barkhane, qui sont sur le terrain, qui conduisent, comme je vous le dis, des opérations dures tous les jours.
Et qui donc luttent contre ces terroristes et qui éventuellement obtiennent leur arrestation, leur neutralisation, enfin bon.
Ce que je veux dire, c'est revenir un peu juste à ce dont j'étais en train de vous parler, en disant qu'il faut que le gouvernement malien, lui aussi, prenne sa part, en particulier dans le domaine gouvernance. Voilà. Et donc, après, on ne peut pas non plus dire le contraire, c'est-à-dire, finalement, le gouvernement malien qui choisit de faire des avancées. Je rappelle qu'il y avait quand même un leader politique malien qui était otage, et je pense que c'était ça leur objectif principal, parce que politiquement, en politique intérieure malienne, ils voulaient progresser, donc ils ont choisi de négocier avec les terroristes, d'obtenir la libération d'un homme politique malien. en libérant.
Oui, on comprend parfaitement leur agenda. Et donc, ils ont besoin de
et donc,
de
et donc,
en place
et donc finalement,
mais
en fait,
quand on est militaire français, qu'on lutte contre ces groupes.
Donc, je dis bien, on voit que dans le domaine politique, finalement, ils cherchent à faire une avancée.
Parfaitement.
Maintenant, le militaire français sur le terrain, bon, déjà, il remplit la mission qui est fixée. C'est pas la première fois. Secondo, bien évidemment, qu'il le regrette. Et que, néanmoins, il va continuer à remplir la mission. Voilà.
L'Europe de la défense, on va commencer avec vous Thomas Gomard et puis ensuite vous poursuivrez. C'est vrai qu'en particulier depuis l'arrivée de Donald Trump, on ne cesse ici en Europe de se dire ça y est, il faut maintenant qu'on s'y mette, on a compris qu'il ne fallait plus compter comme on le faisait avant sur Washington pour aider à notre sécurité. D'abord, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'au-delà de la prise de conscience, les choses sont enclenchées ? Parce qu'on a le sentiment qu'un peu partout, effectivement, tout le monde en parle, y compris en Allemagne, ce qui est relativement nouveau. Sauf qu'on attend toujours les projets, cette Europe de la défense. Est-ce que vous sentez vraiment qu'elle est en train de frémir et qu'elle est en train de trouver sa voie ? Et quelle place l'armée française doit prendre dans cette construction ?
Alors à la question, je répondrai en bon, je sais pas normand, mais oui et non. Et à la deuxième sur la place que doivent prendre les armées françaises, je pense que c'est une place de leader. Alors pourquoi oui et non ? Si vous voulez, le terme consacré, c'est le terme d'autonomie stratégique européenne. Cette idée selon laquelle, en fait, les Européens, compte tenu de la dégradation de leur environnement stratégique, on a parlé là beaucoup de la bande sahélo-saharienne, mais il faudrait aussi parler de la Méditerranée et aussi du flanc Est, se rendent compte qu'ils vont devoir, de manière plus rapide que prévu, assurer leur sécurité avec une garantie de sécurité américaine qui se modifie, on va dire ça comme ça, à ce stade. Pour le dire très rapidement, il n'y a que, au fond, la France, à certains égards, peut-être un peu d'autres pays de temps en temps, qui ont fait le choix de garantir leur sécurité par eux-mêmes. En ce qui concerne la France, c'est notamment par l'arme nucléaire. Les autres pays européens, dans leur très grande majorité, ont renoncé. C'est-à-dire que considèrent que l'OTAN leur apporte les garanties de sécurité suffisantes et que l'OTAN leur permet en réalité de réduire, comme je le disais précédemment, depuis plusieurs générations, leurs dépenses militaires. Alors il y a très probablement effectivement une prise de conscience que ce moment-là est fini. Au-delà de la personnalité de Donald Trump, il y a des signaux qui étaient déjà visibles chez George Bush ou chez le président Obama sur une volonté des États-Unis d'être beaucoup plus critiques vis-à-vis de leurs alliés, mais de leur demander néanmoins d'acheter du matériel militaire américain. Alors, je viens sur ce point parce qu'au fond, ça permet de répondre oui et non, dans le sens où, en termes, si vous voulez, l'autonomie stratégique européenne, elle doit s'apprécier sur trois niveaux. La capacité d'autonomie de décision, la capacité d'opération, puis la capacité industrielle. Alors, sur l'autonomie de décision, il y a des éléments encourageants. C'est-à-dire que les Européens, tant qu'ils conserveront un accès autonome à l'espace, sont, à des degrés divers, mais capables d'apprécier un théâtre par eux-mêmes. Et ça, c'est absolument essentiel parce qu'on s'est retrouvé dans le passé, dans des situations où l'allié américain voyait les choses très différemment de la lecture que nous pouvions avoir. Alors, c'est pas parfait, mais ça passe notamment par l'investissement dans ce qu'on appelle l'espace exo-atmosphérique, c'est-à-dire la surveillance spatiale, etc. J'ai pas le temps de développer. Là où ça pêche, c'est là où ça a progressé, c'est l'autonomie stratégique en termes industriels. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est pas des choses entre ce qui est annoncé en 2017 et ce qui se voit, c'est trop tôt. Mais ce qu'on appelle le SCAF, c'est-à-dire l'avion de nouvelle génération, a un caractère, est-ce que ça va fonctionner ou pas, mais un caractère extrêmement structurant. Parce que c'est toute la base industrielle, technologique et de défense qui va être, comment dirais-je, qui va s'organiser autour de ce projet. Et en l'espèce, avec une dimension franco-allemande, revendiqué dès le départ. Est-ce que c'est la condition du succès ? Ça, c'est un autre débat. Mais disons que politiquement, ouais, l'intention est tout à fait présente. Puis le troisième aspect qui me fait dire non, c'est l'aspect opération. C'est-à-dire que la plupart des pays européens, en réalité, répugnent aux opérations militaires, et en particulier l'Allemagne. Et il ne faut pas reprocher ça aux Allemands, puisque c'est comme ça que la République fédérale d'Allemagne a été construite par les vainqueurs.
Et la plupart est d'ailleurs très attachée au lien avec les États-Unis, oui, dans le domaine sécuritaire. Alors, en réalité, en fait, on est assez isolé en Europe sur ce point de vue.
Oui, Absolument. Et effectivement, le point, en fait, le centre de gravité, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire dans quelle mesure l'Allemagne va évoluer. Et alors, je ne vais pas parler à la place du général, mais c'est vrai que pour les militaires français, il y a toujours des efforts assez importants faits avec le partenaire allemand, alors qu'eux préfèrent, ils se sentent beaucoup plus proches en termes d'opération des Britanniques, qui sont en train de nous quitter. Et donc, la question, à mon avis, que ça pose, c'est celle de cette Europe de la défense post-Brexit. C'est-à-dire que il y a avec les Britanniques un partenaire de tout premier plan avec lequel il y a un partage, je dirais, de culture stratégique pour faire très simple. Il y a aussi un membre permanent du Conseil de sécurité et aussi une puissance nucléaire. Et donc, je pense qu'il faut en fait réfléchir très vite au type de relations militaires après le Brexit avec Londres, avec Berlin, avec d'autres pays, mais surtout en n'oubliant pas Londres.
Général Burkhard, il a raison Thomas Gomard. Au fond, ce qui nous ressemblait le plus sur le plan de la défense, c'était les Britanniques, sauf qu'ils nous quittent. Capacité de projection, pays nucléarisé, etc., etc. Là, il va falloir faire avec nos partenaires allemands, sachant qu'eux n'ont pas du tout, évidemment, la même culture de la défense. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Est-ce que ce que dit Thomas Gomard, c'est-à-dire l'idée qu'on va commencer par faire de la coopération industrielle et les choses vont se structurer autour de tout cela, ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il vous semble que c'est la bonne voie?
Alors, juste pour remettre les choses, effectivement, en fait, la défense, l'Europe de la défense, ça a quand même toujours été construit, en tout cas, c'est soclé sur la défense collective. Et en fait, on voit bien que quand on parle d'intervention en Afrique, en fait, on n'est pas dans la défense collective. D'accord ? Ce qui explique, effectivement, une certaine réticence, une certaine difficulté, même si dans ce domaine-là, je pense qu'on progresse beaucoup. Et là aussi, il faut être capable de voir un peu sur le temps long. Alors, on peut. L'Allemagne, l'année dernière, a engagé des unités dans la MINUSMA. Je rappelle qu'il y a 30 ans ou 40 ans, c'était inenvisageable. Inenvisageable. Déjà, avoir des gens dans un AWACS qui survalait la Croatie alors que ça n'avait pas été validé, mise en arrière, un pas en arrière de l'Allemagne. Donc, regardons quand même comment les choses évoluent. Regardons quand même comment l'Estonie, finalement, participe à la Task Force Takuba. Que d'autres pays européens comme la Tchèque, la République tchèque ou d'autres pays vont s'engager dans cette affaire-là. Donc on avance quand même si on voit bien qu'on n'est plus dans le domaine de la sécurité collective, de la défense collective. Maintenant, la défense collective, c'est quand même quelque chose qui finalement aujourd'hui doit nous aider au vu de la situation de l'évolution du monde, doit nous permettre d'avancer. La France a un rôle moteur dans cette affaire-là. Quand le président de la République dit qu'il veut une armée de référence en Europe, c'est aussi ce à quoi il fait allusion. L'initiative européenne d'intervention est quelque chose qui, petit à petit, doit faire prendre conscience aux pays européens quel rôle ils ont à jouer, avec surtout comme objectif de développer en fait une culture commune. Parce que c'est peut-être probablement ça aujourd'hui qui nous manque le plus. Et j'aurais tendance à dire, c'est peut-être pour la France, là, un peu le plus difficile, parce qu'en fait, c'est la culture commune, alors que, comme je disais, la défense collective a été construite sur l'OTAN, qui a parfaitement rempli son rôle. En fait, la France apparaît toujours quelque chose qui a joué à la fois dans l'OTAN, mais un peu en dehors. Et quand on parle de culture commune, finalement, les gens disent oui, mais non, mais la France, c'est pas exactement ça.
Et surtout qu'en plus, nous avons la dissuasion nucléaire.
Oui, les Britanniques l'ont aussi. Donc,
ah, mais ils sont pire en Europe. Hein.
Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est un vrai sujet. Et pour la France et pour l'armée de terre en particulier, l'armée française, il y a une vraie nécessité d'explication, de pédagogie à faire pour expliquer comment c'est pas contre l'OTAN. Mais que finalement, ouais, il faut trouver une voie, parce que l'OTAN, qui remplit parfaitement son rôle de défense collective, on voit bien néanmoins quelles sont les évolutions, comment finalement les Américains se repositionnent et quel questionnement ça produit chez nos alliés européens. Donc, je pense qu'on est à une période qui est probablement moins défavorable pour pouvoir avancer dans ce domaine-là.
Thomas Gomard.
Alors, le moment politique est effectivement à saisir. Les différences de culture stratégique sont aussi très profondes. C'est-à-dire que, pour faire simple, l'Europe puissance, il y a à peu près que les Français et les Belges qui y croient. Et ça nous gêne beaucoup, parce que en réalité, nous avons une culture militaire qui est à la fois basée sur la défense collective, sur le nucléaire, mais aussi sur une culture expéditionnaire, qui n'est pas partagée par les autres. Nous avons une culture militaire qui pense encore le grand large, alors que la plupart des Européens ne veulent pas voir le monde, je dirais, à l'est de Suez.
Et on peut les convaincre ?
Bah, On peut les convaincre d'une chose, c'est que on peut les convaincre que le centre de gravité du système monde est en train de changer et que nous sommes en train de devenir dans une position périphérique et marginale. Voilà. Et que ça, c'est aussi des tendances très lourdes historiquement, et que effectivement, il y a un intérêt commun à relever la garde, je dirais. Bon, après, la difficulté, c'est que ce sentiment d'urgence, il n'est pas ressenti de la même manière. Ce sentiment d'urgence stratégique, il n'est pas ressenti de la même manière à Paris, à Berlin, à Varsovie ou à Rome, parce qu'en fait, nous ne ressentons pas les menaces de la même manière. Mmh. Donc moi, je crois qu'en l'espèce, il faut être là aussi peut-être. Graduel, pour reprendre le terme qu'on a utilisé sur le Mali, pas voir une armée parfaite ou une armée européenne comme le président de la République l'avait évoqué, parce que c'est le plus sûr moyen de contrarier nos partenaires et alliés.
En revanche,
il y a quelque chose de composite, et il y a des habitudes de travail, il y a une vision du monde qui, à mon avis, est en train de converger.
Général Burkhard, on arrive presque au terme de notre émission. Il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre, pardon, et peut-être que vous aurez le temps de dire ce que vous aviez à dire là, mais qui me semble quand même très important. On est dans une crise sanitaire majeure, inédite. Par ailleurs, on parle de guerre. On entend aussi toute cette rhétorique de guerre autour de ce Covid-19. C'est pas tout à fait un hasard. La guerre, c'est le domaine des militaires. Il y a des voix qui appellent de plus en plus à la rescousse, l'armée, pour faire face à cette crise sanitaire. Là, ce week-end, on a une vingtaine d'élus de la Loire qui appellent au secours, qui appellent à la rescousse l'armée sur sa réponse, pour utiliser justement ses capacités sanitaires. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ça, c'est pas notre domaine? Ou vous dites, oui, en effet, peut-être que ça fait partie de notre champ d'action?
Alors, quand il s'agit de protéger et de soutenir les Français, c'est forcément du domaine de l'armée française et donc de l'armée de terre. Donc,
assez peu mobilisé sur ce sujet pour le moment.
C'est pas si vrai que ça, puisqu'en fait, sur la première vague, il y a eu plusieurs types d'actions. Il y a eu de l'action qui était vraiment sanitaire, avec la mise en place d'un hôpital de réanimation à Mulhouse. Il y a eu des moyens de transport qui ont été mis soit par avion, soit par hélicoptère pour redistribuer, dispatcher les médecins.
Mais on peut faire plus.
Il y a eu aussi, en gros, à un moment, 3000 hommes qui étaient engagés quotidiennement, qui étaient en appui, soit en appui logistique pour distribuer des masques, soit en appui de sécurisation pour aider les hôpitaux, soit aussi des hommes qui ont été, enfin des officiers qui ont été mis dans des structures auprès des préfets, auprès de l'ARS, pour faciliter le dialogue et permettre de mieux exprimer à la fois les besoins et les réponses qu'on pouvait y apporter. Je pense que ça n'a pas été très très visible, parce qu'en fait le choix qui a été fait était d'agir de manière très déconcentrée, très décentralisée, donc il n'y a pas eu d'écho, peu d'écho visible, mais en revanche, un impact psychologique qui a été extrêmement fort. Ce que je voudrais dire, c'est que, attention, en fait, j'aurais presque tendance à dire, finalement, l'armée française, elle sait tout faire et elle peut tout faire. Le risque, c'est qu'elle ne peut pas tout faire
en même temps.
Et donc, ce qu'il faut absolument souligner, c'est pour l'armée de terre en particulier, il fallait absolument que les opérations continuent. Et donc, on a fait ça en même temps que les opérations. Donc, il y a toujours un curseur à trouver.
Thomas Gomard, 20 secondes.
Oui, moi je pense qu'il y a un autre risque qui est de voir, et on l'observe par exemple dans des pays comme l'Autriche, des outils de défense dérivés vers des forces de sécurité civile. Et c'est un risque à mon avis qu'il faut avoir à l'esprit, parce que c'est pas du tout le même métier, et qu'en même temps, la redondance possible de crise sanitaire ou environnementale demain fera qu'une très forte pression de l'opinion ira dans ce sens.
Merci infiniment, messieurs. Vous avez le doigt levé, général. Allez,
non, je donne la parole. C'est parce que vous m'avez dit que je pourrais dire. Et c'est pour reboucler. En fait, quand on parle d'armée de référence en Europe, c'est parce qu'on a une armée d'emploi, un modèle complet, qu'on a un vrai processus décisionnel politique qui permet de faire, et un soutien à l'opinion publique. Et ça, on est quasiment aujourd'hui le seul pays en France à le faire, en Europe à le faire. Il faut absolument qu'on conserve une vraie relation avec les Britanniques. J'ai des contacts frais quand même avec mon homologue, avec l'Allemagne, bien évidemment, avec la Belgique, qui est un partenaire, avec un partenaire stratégique très très fort.
Appel très clair. Merci infiniment, messieurs. Thierry Burkhard, général, chef d'état-major de l'armée de terre, vision stratégique 2030, qu'on peut retrouver facilement sur le site internet de France Culture, mais sur internet en général. Thomas Gomard, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin également. L'affolement du monde et plein d'autres choses encore. C'était un plaisir, on avait plein de choses encore à évoquer, mais il faudra vous faire revenir. Tout de suite, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors ce matin, les ruines qui sont une invitation à réfléchir, elles annoncent aux maîtres de l'heure que le temps aura bientôt raison de leur arrogance et aux civilisations qu'elles sont mortelles.
Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux, c'est vous que j'invoque, c'est à vous que j'adresse ma prière. Oui, tandis que votre aspect repousse d'un effroi secret les regards du vulgaire, mon cœur trouve à vous contempler le charme des sentiments profonds et des hautes pensées. Combien d'utiles leçons, de réflexions touchantes ou fortes, n'offrez-vous pas à l'esprit qui sait vous consulter? C'est dans votre enceinte qu'amant solitaire de la liberté, j'ai vu m'apparaître son génie. Non tel que se le peint un vulgaire insensé, armé de torches et de poignards, mais sous l'aspect auguste de la justice. Cette invocation a été placée par son auteur, le célèbre orientaliste Volney, en avant-propos de son ouvrage « Les ruines », paru en 1791 en plein cœur de cette tourmente révolutionnaire dont il fut l'un des acteurs en tant que député de la Constituante. Conçu par son auteur sur les ruines de Palmyre, dont on s'en souvient l'État islamique a détruit les temples à la dynamite, il s'agissait, comme l'indique son sous-titre, d'une méditation sur les révolutions des empires. Un livre donc de philosophie politique, inspiré à son auteur par une connaissance rarissime en cette fin du XVIIIe siècle, de l'Orient, de ses langues et de son histoire. En effet, en 1783 et 84, Volney avait voyagé à travers l'Égypte et le Moyen-Orient à une époque où bien peu d'Européens s'y aventuraient. Il avait appris l'arabe au Liban et l'on trouve dans son livre « Les ruines » donc, au chapitre 21, un récit qui est probablement le premier jamais publié en français relatant la rupture entre les partisans d'Omar et ceux d'Ali, rien de moins en somme que la naissance du chiisme et du sunnisme. Je cite « Admettons que Mahomet soit l'apôtre de la vraie religion. Veuillez du moins nous dire qui nous devons suivre pour la pratiquer. Sera-ce son gendre Ali ou ses vicaires, Omar et Abou Bekr ?» À peine eut-il prononcé ces noms qu'au sein même des musulmans éclata un schisme terrible, les partisans d'Omar et d'Ali se traitant mutuellement d'hérétiques, d'impies et de sacrilèges. Mais je ne suis pas venu vous parler du conflit entre sunnites et chiites qui explique pourtant bien des événements en cours au Moyen-Orient. Il y a pour cela d'excellents spécialistes et on a pu les entendre dans Culture Monde.
Et donc vous avez décidé, vous Brice, de nous parler des ruines, pas celles des empires mais celles des palais.
Oui, et plus précisément des palais italiens abandonnés puisque tel est le thème du recueil d'un album de photographie qui vient d'être publié par les éditions de La Martinière. Cela fait déjà un certain temps que j'admire l'œuvre de Thomas Jorion, un photographe qui parcourt la planète de l'Inde à l'URSS en passant par le Vietnam et Haïti pour y dénicher des demeures abandonnées, des usines en ruine, des vestiges d'empire. Il en saisit l'âme en des images savamment composées. Il n'y a aucun exotisme chez ce globetrotteur. Sur son site thomasjorion.com, on découvre les multiples facettes d'un art qui possède une formidable unité de style. Son regard fixe des paysages silencieux et des habitations désaffectées depuis longtemps, d'une manière étrangement détachée et sans romantisme. Il ne traque pas les fantômes, si vous voulez. Il témoigne et il compose. Ce livre, qui s'appelle Veduta, inspire certes une mélancolie devant des salons d'apparat de palais à demi ruinés, des pièces vides dont les fresques murables semblent narquer la vacuité parce qu'on est en Italie, mais toujours une lumière savamment captée depuis une fenêtre latérale, invisible, ou tombant d'un plafond éventré ou venant d'une porte ouverte vers on ne sait quel ailleurs, plus mystérieux encore, jette sur ces paysages intérieurs abandonnés un rayonnement qui leur rend une sorte de vie immobile. On pense à Sebald, visitant lui aussi des palais en ruine, non pas en Italie mais en Angleterre, des manoirs donc, où cet écrivain allemand avait décidé de méditer sur la littérature de son pays et sur celle de l'Autriche. Dans Les Anneaux de Saturne, il écrivait « Sur chaque forme nouvelle plane l'ombre de la destruction, car l'histoire de chaque individu, celle de chaque communauté et celle de l'humanité entière ne se déploie pas selon une belle courbe perpétuellement ascendante, mais suit une voie qui plonge dans l'obscurité après que le méridien a été franchi. Lorsque les dernières révolutions seront accomplies, tous les comédiens comme au théâtre remonteront une dernière fois sur la scène « To complete and make up the catastrophe of this great peace ». Le temps lui-même devient vieux. Et on pense aussi au texte de Baudelaire « Symptômes de ruine » dans les petits poèmes en prose. « J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler, un bâtiment travaillé par une maladie secrète ». Je vous recommande donc ce livre d'images de villas et de palais abandonnés découverts dans toute l'Italie, du Piémont à la Sicile. On vous entraîne à sa suite, le photographe Thomas Jorion, le titre du livre « Veduta », vu en italien, l'éditeur La Martinière.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr et sur l'application Radio France.